Chapitre 14. Dès qu'elle eut mémorisé le rituel des visites, Peggy fut en mesure d'effectuer le parcours toute seule. L'Aucassane divisa le territoire en deux zones égales. Peggy se vit confier la plus éloignée. Deux fois par jour, elle s'en allait, une besace de flacons en bandoulière, pour se présenter au seuil des petites maisons abritant les malades. Au début, elle essaya d'établir un contact avec ses patients. Mais ceux-ci lui opposaient un mutisme farouche et se détournaient sans la saluer dès qu'elle leur avait fait avaler les fameuses gélules de dilatation. Inga, l'une des filles de ménage qui, comme elle, appartenait au service des ambulants, lui conseilla de ne pas perdre son temps à se montrer aimable. « Ça ne sert à rien, soupira-t-elle. Ils voient en nous des gardiennes de prison, ils nous détestent. Ils sont incapables de réaliser que cette camisole chimique, comme ils disent, leur sauve la vie. Ils n'ont qu'une idée, creuser un trou dans une paroi et s'enfuir. » C'est absurde, bien sûr, parce qu'à peine dehors, ils gèleraient sur pied en l'espace de 3 minutes. Mais il n'y a pas moyen de leur faire entrer ça dans le crâne. Ne te fatigue donc pas à jouer les gentilles infirmières. C'est de l'énergie gâchée en pure perte. Peggy livrait les remèdes depuis une dizaine de jours, quand un beau matin, elle fut accueillie au seuil de la maison numéro 5 par une Inga au comble de l'affolement. « Viens vite m'aider, » haleta la jeune femme. « C'est la mère de Total. L'une des cinglées s'est noyée dans la baignoire commune. » Peggy se précipita à sa suite. Comme toutes les demeures nippones, la salle de bain était équipée d'un tonneau pour les ablutions savonneuses et d'une baignoire où, une fois propre, on se délassait dans une eau presque bouillante. Une femme d'une cinquantaine d'années reposait au fond de la cuve, les yeux et la bouche grands ouverts. « Elle a dû avoir un malaise, » supposa Peggy. « Mais non, » grogna Inga, en se penchant pour saisir le cadavre sous les aisselles. « C'est à cause des dilatateurs. Ça provoque des hallucinations à effet retard. » Cette bonne femme a eu soudain l'impression que la baignoire était aussi profonde que l'océan Pacifique. Elle a perdu pied, et comme elle ne savait pas nager, elle a cru qu'elle se noyait. Et ça a suffi ?
Ouais, avec les dilatateurs, il suffit d'y croire pour que le corps subisse un contre-coup réel. Tu piges ? C'est le même principe que les maladies psychosomatiques. Il y a 2 mois, un autre type est mort d'épuisement en remontant un couloir de 500 mètres de long. Sous l'effet de la drogue, il s'était imaginé que le corridor mesurait 200 kilomètres. Quand il est arrivé au bout des 5 mètres réels, son corps accusait la même fatigue que s'il venait d'effectuer une marche de 200 bornes. Il s'est effondré, fauché par une crise cardiaque. Elles eurent beaucoup de mal à extraire le cadavre de la baignoire et à l'étendre sur le sol. « Merde, merde, merde !» martela Inga. « Ça va encore faire des histoires avec cette vieille salope de Cassane. C'est très mal vu de perdre un patient. Ces louvetins sont hyper qualifiés et très durs à remplacer. » Elles se redressèrent, le kimono trempé. Alors qu'elles sortaient sur la véranda pour réclamer du secours, Inga saisit Peggy par le coude et lui glissa à l'oreille « Même si tu déprimes, ne touche jamais à ces saloperies. Mauvaise médecine, comme disent les Indiens. Ce n'est vraiment pas la bonne méthode pour planer. Tu n'es pas claustro, alors ça déclencherait chez toi des hallucinations insupportables. Tu as déjà essayé, sentit Peggy. Ouais, grogna Inga, une dose infime. J'ai tellement eu la trouille que ça m'a ôté toute envie de recommencer.
Comme prévu, l'Aucassane entra dans une vive colère. La noyée était chercheuse en biologie. On espérait, en haut lieu, qu'elle finirait par triompher de sa phobie d'enfermement et pourrait bientôt reprendre sa place au laboratoire. Ce sont les risques du traitement, riposta Inga. Ils sont parfois victimes de bouffées délirantes longtemps après que les médocs ont cessé de faire effet. On n'y peut pas grand-chose. Impossible d'être sur leur dos en permanence. Ils sont trop nombreux. L'Aucassane ne voulut rien entendre et les congédia en les menaçant des pires représailles. Le travail reprit. Peggy restait sur ses gardes et s'appliquait à engranger le maximum d'informations. De temps à autre, elle réussissait à échanger quelques mots avec les patients qui s'apprivoisaient peu à peu. En recoupant ses bribes de confidences, elle finit par comprendre qu'une autre section médicale se dissimulait un peu plus loin,
derrière l'obstacle d'une porte blindée. On y traitait des malades plus gravement atteints. Les fous surnommaient cet endroit le pays des morts vivants. Là-bas lui confia un doux vieillard à moustache grise. C'est l'enfer. Toutes les lois naturelles sont bafouées. On y voit des choses qui ne devraient pas exister. Je ne vous souhaite pas d'y mettre les pieds, mon petit. La routine s'installait. Le soir, Peggy retrouvait Poppy pour un rapide repas de poisson cru et de riz. Elles étaient si fatiguées qu'elles ne prenaient plus le temps de bavarder. De toute manière, que se serait-elle raconté? Chaque journée ressemblait à la précédente. Le matin du 20e jour, Peggy dormait sur son mince futon quand Poppy la secoua du bout du pied. Peggy ouvrait les yeux en grognant. Elle avait les côtes et les hanches endolories. Cette méthode de couchage japonaise ne lui convenait guère et il lui arrivait de se retourner d'un flanc sur l'autre pendant des heures avant de trouver le sommeil. Le matelas ne mesurait qu'un centimètre d'épaisseur. Le plancher était aussi dur qu'un trottoir. Autant de paramètres qui contribuaient à faire de ses nuits un cauchemar. Le matin, elle avait beaucoup de mal à soulever les paupières. C'était toujours sa camarade de chambrée qui la secouait en lui tendant une tasse de thé censée la remettre sur pied. « Debout, marmotte !» répéta Poppy. « Ne te rendors surtout pas, ou bien le cassane va te tomber dessus. Je file, je suis de corvée de livraison. » Peggy hocha la tête. Elle savait à quoi la jeune femme faisait allusion. Il s'agissait de courir au monte-charge réceptionner les colis de nourriture et de médicaments en provenance des autres niveaux. Il fallait ensuite véhiculer les paquets au moyen d'une brouette jusqu'au cellier sur lequel le cassane veillait jalousement. Ces divers transbordements s'effectuaient sous le contrôle de l'irascible vieille femme qui, à la moindre fausse manœuvre, se répandait en torrents d'injures. Peggy but le thé amer, tandis que Poppy quittait la maison ses guettas claquant sur le sol. Le contenu de sa tasse avalée, Peggy se rallongea. La tête lui tournait comme si elle allait s'évanouir. Un curieux vertige s'empara d'elle tandis qu'une nausée lui tordait l'estomac. Jugeant plus prudent de se lever, elle roula sur le flanc pour quitter le futon. Alors qu'elle se préparait à poser le pied sur le plancher, elle poussa un cri de terreur. Le futon sur lequel elle était assise se trouvait perché au sommet d'une montagne. Quant au parquet, elle le dominait de plusieurs centaines de mètres. À croire qu'il avait été victime d'un glissement de terrain et s'était enfoncé dans le sol. Elle eut le réflexe de se rejeter en arrière pour s'allonger sur la paillasse où elle demeura tremblante à claquer des dents. « Bon sang !» se répétait-elle. « Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce délire ?» Son cœur battait à tout rompre et elle était couverte de sueur. Ses globes oculaires lui faisaient mal. Elle était si perturbée qu'il lui fallut plusieurs minutes pour comprendre enfin que sa perception des distances avait été perturbée par l'ingestion d'un hallucinatoire. « Les médicaments !» se dit-elle. « Quelqu'un m'a fait avaler des dilatateurs à mon insu. On a vidé les gélules dans mon thé. Mais qui ? Poppy ? Pourquoi ? Ça ne tenait pas debout ? Pour quel motif ?» Elle n'eut pas le loisir d'y réfléchir car les symptômes s'amplifièrent. Elle grelotta bientôt, convaincue d'être accrochée du bout des ongles au sommet d'une montagne. Des gouffres insondables l'encerclaient. Au moindre faux mouvement, elle basculerait dans l'abîme pour s'écraser au terme d'une chute de 300 mètres. « Allons, pensa-t-elle, ressaisis-toi. Tu es sur un futon dont l'épaisseur n'excède pas 2 centimètres. Cette galette repose sur le plancher. Tu peux en descendre sans risque. Le reste n'est qu'illusion, mirage induit par la drogue. » En dépit de ses efforts de rationalisation, elle échoua à se persuader du bien fondé de sa démonstration. Dès qu'elle risquait un œil au bord du matelas, son regard plongeait au fond de l'abîme et toutes ses belles démonstrations s'effondraient. Sous l'effet de la terreur, son cœur s'emballait. Si elle ne réussissait pas à se calmer, elle ne tarderait plus à faire une crise cardiaque. Il lui semblait à présent qu'elle glissait du futon, lentement mais sûrement. Elle avait beau s'accrocher au matelas de coton, rien n'y faisait. Tôt ou tard, la paillasse plantée en équilibre instable au sommet de la montagne basculerait dans le vide, et son occupante tourbillonnerait à sa suite avant de s'écraser sur les lattes du parquet que le choc ferait éclater. On la retrouverait là, les os en miettes, transformés en pelotes d'épingle par les échardes. Elle essaya d'appeler les nanoparticules à la rescousse, mais la frayeur perturbait ses influx nerveux. Trompée par la puissance de l'illusion, les nano-éléments essayaient de faire d'elle un oiseau en disposant des plumes au long de ses bras. Ils durent abandonner ce projet pour se consacrer sur son cœur menacé d'infarctus. Un mirage se répétait-elle encore et encore. Ce n'est qu'un mirage. Il te suffirait de tendre la main pour toucher le plancher. Mais la peur était trop forte. Si elle commettait l'erreur de se pencher au-dessus du gouffre, elle céderait aussitôt au vertige et basculerait dans le gouffre. Elle le savait. Elle demeura ainsi près d'une heure à gémir, suer et se tortiller. Sans le travail de réparation interne effectué par les nanoparticules, elle serait morte trois fois, terrassée par la panique. Ce fut Inga qui, s'inquiétant de son absence, la découvrit les yeux révulsés. Comprenant ce qui se passait, elle lui injecta un produit réservé aux malades souffrant des effets secondaires du traitement dilatoire. Il était temps. Quand Peggy émergea enfin de sa transe, Inga ne mâcha pas ses mots. « Pauvre conne !» lui jeta-t-elle au visage. « Je t'avais bien dit de ne pas toucher à ces saloperies. Mais tu n'as pas pu t'en empêcher, hein ?»« Non, » bredouilla Peggy. « Je te jure, je crois qu'on a essayé de m'empoisonner. » Inga se releva exaspérée. « Mais oui, c'est ça, » cracha-t-elle. « Tu me prends vraiment pour une débile ? Va te laver et passe un kimono propre. Si l'Okasan se doute de quelque chose, tu seras virée. Et quoi que tu penses, il y a des boulots bien plus pénibles que le nôtre. Je dis ça dans ton intérêt. » Peggy se redressa en titubant. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle se lava avant de passer le kimono ordinaire qu'elle revêtait pour ses visites. Inga l'aida à sortir de la maison en lui débitant des injures à mi-voix. Peggy choisit de ne plus protester. Mieux valait passer pour une toxicomane. Elle n'en demeurait pas moins convaincue qu'on avait tenté de l'assassiner. Le soir, dès qu'elle se retrouva seule avec Poppy, elle lui conta sa mésaventure. « Qui a préparé le thé » conclut-elle. « Toi ?»« Non, » se défendit l'accusé. « C'est l'Okasan qui l'a apporté ce matin pendant que tu dormais encore. »« Elle le fait de temps à autre, ce sont des habitudes japonaises. » Ça ne veut pas dire grand-chose. Tu en as bu ? Non, j'étais en retard. Et puis je n'aime pas le thé, surtout celui-là, il est trop amer. Je t'en ai versé une tasse et je suis partie. Bon sang, pourquoi m'accuses-tu ? Quel intérêt aurais-je à t'empoisonner ? On ne se connaît même pas. Qu'est-ce que ça me rapporterait ? Peggy hocha la tête. Poppy n'avait pas tort. Cette pauvre fille n'avait aucune raison de lui en vouloir. Non, il fallait chercher ailleurs. « Alors, c'est l'Okasan, » murmura-t-elle. « C'est possible, » murmura Poppy, « elle ne nous aime pas. Elle a peut-être voulu nous donner une leçon. J'aurais pu boire le poison, moi aussi. Elle ne pouvait pas prévoir que je m'en abstiendrais. »« Possible, » grommela Peggy, « possible. » Mais une autre explication était en train de prendre forme dans son esprit. L'Okasan ne l'avait-elle pas vue en train de questionner les malades ? N'avait-elle pas jugé cette curiosité suspecte ? Voire dangereuse. Sans doute était-il inutile de chercher plus loin. « Ok, » fit-elle avec un sourire forcé, « excuse-moi, j'ai perdu les pédales. » Mais j'ai vraiment eu la trouille. Si Inga n'était pas arrivée, je crevais d'un arrêt cardiaque. « La vache, quelle histoire !» souffla Poppy. Le lendemain, elles furent toutes deux convoquées chez l'Oyabun. L'affaire avait transpiré. S'y ajoutait le regrettable décès de la biologiste noyée. Tirant sur une longue pipe en terre, le responsable de secteur les reçut sans égard, comme des servantes congédiées. « Vous ne faites pas l'affaire, » annonça-t-il. « Depuis votre arrivée, tout va de travers, les incidents se multiplient. Il est évident que vous avez besoin d'un encadrement plus sévère. J'ai décidé de vous muter dans une unité de soins intensifs soumise au régime disciplinaire. » « Vous y serez conduite dans une heure, après avoir rendu vos kimonos à l'Okasan. Là-bas, on sait faire marcher les filles comme vous à la baguette. »